Alors, bon matin, chers amis de notre Église, c'est un privilège d'être ici devant vous virtuellement cette fois-ci pour apporter la parole de Dieu, la prédication sur la parole de Dieu. Et donc, ce matin, on va aborder un sujet, ce n'est pas le sujet en tant que tel, mais c'est plutôt un titre que j'ai choisi à partir du texte Jean 1, verset 19 jusqu'à 34. Et le titre de la prédication, c'est bien La consolation du baptême de Jésus. Alors, ça va être le troisième point pour notre méditation. Et cette fois-ci, je ne lis pas le passage. C'est bien Jean 1, verset 19 jusqu'à 34. Vous pouvez arrêter donc l'enregistrement pour y lire le passage vous-même, parce que je vais traverser le texte assez systématiquement. Donc, et vous pouvez le suivre aussi de cette manière pendant la prédication. Alors, c'est encore une fois Jean 1, verset 19 jusqu'à 34. Et on va aborder et parler de ce texte à partir et en utilisant trois points de concentration. Le premier point, c'est bien devant le tribunal. Le deuxième, c'est le témoignage positif de Jean-Baptiste. Et le dernier point, c'est la consolation du baptême de Jésus. Alors, le premier point, devant le tribunal. Le texte commence avec, donc Jean 1, verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, Toi, qui es-tu? Donc, au verset 19, nous voyons que les Juifs ont envoyé une délégation pour interroger Jean avec la question « Qui es-tu? » ou plus précisément, par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Et dans l'Évangile, juste quelques mots pour explication. Les Juifs, dans ce texte, est un terme dans tout Jean, l'Évangile de Jean, qui est souvent contrasté et se contraste avec le monde. Les Juifs, dans ce contexte, indiquent l'élite dirigeante religieuse. Donc, c'était un cours à l'intérieur de l'Église à l'époque d'Israël qui s'appelait le Sanhédrin. Et c'est eux qui ont envoyé donc une délégation pour interroger Jean. Donc, vraiment, c'était un tribunal qui était envoyé pour demander à Jean-Baptiste, de témoigner devant eux qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait et c'est quoi son identité. Et cette élite dirigeante religieuse était composée des Sadducéens. Et les Sadducéens étaient plus ou moins les prêtres. Non, c'était des prêtres. Et ils étaient les libéraux qui niaient la résurrection de Jésus-Christ, par exemple. Donc, les libéraux de cette époque faisaient partie de ce Sanhédrin qui supervisait aussi le temple. Et il y avait des pharisiens aussi qui faisaient partie de ce Sanhédrin. Et les pharisiens étaient plutôt les élites ultra-orthodoxes qui vivaient et qui enseignaient la population dans les campagnes, dans les synagogues, dans les campagnes, qui enseignaient la Torah au peuple. Et donc, ces délégués avaient le devoir légitime d'interroger Jean. Leur délégation était légitime. Jean, je trouvais donc littéralement devant le tribunal, notre premier point. Le tribunal, bien sûr, et bien entendu, religieux. En présence d'au moins deux disciples, peut-être plus, mais deux disciples, sûrement deux disciples, André et Jean. Et là, on peut trouver ce donné un peu plus tard, dans Jean 1, verset 35. Il était avec André et il était avec Jean, les deux premiers disciples. Et Jean est, en effet, donc l'auteur de cet évangile. Donc, c'est lui qui a vécu cette histoire personnellement avec Jean et devant cette délégation. Et encore plus précis, on peut dire, ceci est indiqué par la phrase que c'était un tribunal, par la phrase « Voici le témoignage de Jean ». Jean faisait un témoignage devant le tribunal religieux. C'est un terme utilisé dans le cour jusqu'à aujourd'hui, dans et devant un tribunal. Et bien sûr, c'était quoi la raison? La raison était pour interroger Jean, mais pourquoi spécifiquement? Peut-être pour estampiller une hérésie, des doctrines qui étaient contraires à leur interprétation de la Bible et qui étaient contraires à leurs idées par rapport à le baptême. On va revenir là-dessus. Ou plus grave encore, peut-être Jean était un révolutionnaire qui voulait renverser ou, bien sûr, peut-être un jour attaquer le gouvernement, les Romains qui étaient là, ou peut-être même le Sanhédrin. Et donc, c'était important de savoir pour eux qui était Jean. Qui es-tu, Jean? Alors, et par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? En plus, Jean Baptiste était un fils d'un prêtre. Alors, il avait déjà un statut à l'intérieur et avec les prêtres, donc encore plus proche d'eux pour peut-être susciter une révolte de l'intérieur. Tout religieux, mais aussi et souvent politique. Alors, la première question, implicite ou explicite, eh bien, es-tu le Messie? Il y avait beaucoup de prétendants messianiques. Donc, si vous lisez l'histoire d'Israël, pendant cette période, mais même avant cette période, surtout juste avant cette période, il y avait des gens qui se autoproclamaient d'être le Messie. Et souvent, il y avait des grandes révoltes contre les Romains et les autres qui étaient là pour garder l'ordre dans le pays. Donc, c'est important de savoir quelle était la raison et est-ce qu'il était un de ces messies qui prétendait d'être un messie et donc, en effet, qui pourrait être une menace pour la paix et pour la stabilité du pays. Mais plus encore, peut-être même pour se révolter contre le Sanhédrin, pour prendre la place du Sanhédrin, des Sadduciens et des pharisiens. Donc, encore une fois, c'était nécessaire pour eux de savoir qui était Jean-Baptiste et par quelle autorité il faisait ce qu'il faisait. Alors, à la première question, la réponse de Jean, et on se trouve dans le tribunal encore, et c'est le tribunal, il faut s'imaginer d'être devant un tribunal. Il a répondu, il déclara, littéralement, verset 20, et il ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc, encore une fois, je renforce l'idée que c'était devant un tribunal, et on peut le savoir encore plus parce qu'il utilise, la Bible utilise ici, donc une expression qui vient aussi de ce contexte. Ça veut dire, il déclara, il disait ouvertement devant eux qu'il n'était pas le Christ. Il déclara, et ça se dit deux fois dans ce passage. Donc, c'était son témoignage par rapport à ce et par rapport à cette question. On poursuit, la deuxième question était, alors, et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et pourquoi Élie? Il faut le mettre dans un contexte plus large, dans un contexte de l'Ancien Testament. Là, on trouve le fameux texte, « Voici, je m'en vais vous envoyer, je m'en vais vous envoyer, Élie le prophète, avant que le grand jour, ou le jour grand et terrible de l'Éternel vienne. » Alors, il avait raison, d'une certaine manière, que peut-être Jean-Baptiste était Élie, qui était promise dans l'Ancien Testament. Et en effet, les rabbins pensaient qu'Élie descendrait littéralement du ciel avant que le Messie ne vienne, ou avant que le Messie viendrait. Alors, es-tu Élie? Est-ce que tu es ce prophète? Peut-être vous pensez à un passage, et ça c'est beaucoup plus tard, en Matthieu 17, versets 10 à 15, où Jésus a dit aussi qu'il a fait le lien entre Jean-Baptiste et Élie en disant que, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre entendre. Donc, le lien est là, mais Jésus ne voulait jamais dire que Jean-Baptiste était Élie, mais il prophétisait dans l'esprit d'Élie. On va voir la pertinence de cette observation un peu plus tard. Donc, non, il n'était pas Élie non plus. Il dit, je ne le suis point. Alors, il y a une troisième question devant le tribunal, par le tribunal, et c'est quoi? Es-tu le prophète? Et voilà, ici, les délégués reviennent sur le thème du Messie. Parce qu'avec cette expression, cette phrase, ou ce terme, es-tu le prophète, ou cette question plutôt, il réfère encore à l'Ancien Testament, où nous trouvons en Deutéronome 18, versets 15 jusqu'à 19, et je ne vais pas lire donc tout le passage, mais là nous lisons, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi, vous l'écouterez. » Donc, il y avait une promesse qui disait que, oui, il y aura un autre prophète comme moi, comme Moïse, et il faut l'écouter. C'était nécessaire de l'écouter. Ou un peu plus bas dans le même texte, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi, comme toi, donc comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Fin de la citation. Encore une fois, donc, voilà peut-être, toi, Jean-Baptiste, tu es ce prophète qui, dans un sens, remplace Moïse, comme c'était donc prophétisé par Dieu lui-même. Et dans ce sens encore, il n'était pas trop loin de la vérité. En effet, Pierre affirme le fait que le prophète était le Messie et le Messie était le prophète prophétisé dans ce passage. En Actes 3, verset 19 jusqu'à 22, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, et là voici le texte, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Alors, comme moi, ça veut dire quoi? C'est une référence au Messie. C'était une référence à celui qui remplacerait le Moïse. Moïse. Et il dit, il continue, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Donc, il le cite littéralement, « Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Fin de la citation. Alors, encore une fois, ce n'était pas trop loin de la vérité. Le Messie, en effet, était aussi ce prophète. Hein? Christ, le Messie, loin, hein, ça veut dire la même chose, était un roi, bien sûr, mais il était aussi un prophète et il était un prêtre. Donc, ce passage était aussi un passage par rapport à lui qui est venu pendant le temps de Jean-Baptiste. Mais non, pas par rapport à Jean directement, ce n'est pas lui qui est et qui était le prophète. Alors, la réponse de Jean, c'est encore, et il répondit, non. Alors, ça ne les donne pas beaucoup de réponses positives. Alors, il continue d'interroger Jean. Alors, ça se poursuit. Et donc, il continue de lui demander, un peu désespéré probablement, il lui dit encore, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, « Qui dis-tu de toi-même ? » Donc, un peu désespéré, ils disent que, « OK, mais dis-nous, c'est quoi ?» ton identité. S'il vous plaît, il faut qu'on ait une réponse pour le Sanhédrin. Et là, ça nous amène au deuxième point de notre méditation, le témoignage positif de Jean-Baptiste. Et cette fois-ci, donc, la réponse de Jean-Baptiste est positive. Il dit dans le verset 23, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. » Fin citation. Enfin, une réponse positive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait référence à un autre texte de l'Ancien Testament. Donc, il faut bien comprendre pourquoi. Donc, il n'est pas là parce qu'il a inventé sa vocation ou son appel. Non, il fait référence à l'Ancien Testament pour dire que moi, j'ai un témoin devant vous, et ce témoin est en effet la parole de Dieu, la parole de Dieu qui avait déjà prophétisé que je venais. Et donc, il dit, c'est Dieu lui-même qui a envoyé, qui m'a envoyé pour que je suis ici et pour que je fais ce que je fais. Et on va creuser un peu dans le contexte de ce texte-là. Et on va revenir là-dessus pour le dernier point. Okay? Alors, il fait référence à Isaïe 40 et il fait référence au verset 4. Mais moi, je veux vous lire le contexte encore. Et le contexte est donc du verset 1 jusqu'à 4. Et je vais lire le texte au complet et on va revenir là-dessus à la fin, comme je viens de dire. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et là, tu vois la référence 3, une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroites en vallon. Alors, encore une fois, Jean a une parole, Jean a un témoin, et il témoigne du fait que non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et selon ce texte, selon cette parole de Dieu, et alors là, il exprime qui il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. Et on va élaborer là-dessus un peu plus. Donc, sur ces deux points. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis, et donc, je suis celui qui est le héros qui prépare le chemin de l'Éternel, le Messie. Donc là, il a donné une réponse positive, hein, selon les paroles de Dieu même. Il est le héros ou celui qui dit, voici, le Messie vient. Le Messie arrive, il faut se préparer pour le recevoir dans vos cœurs, dans vos vies. Je suis ici pour préparer son chemin pour qu'il s'établisse dans ton cœur, dans votre cœur, et qu'il reste avec vous éternellement. Il est l'héros qui prépare le chemin de l'Éternel. Et vers qui vient-il? Le Seigneur, le Messie. Encore une fois, et il faut toujours interpréter la Bible dans son contexte et plutôt aussi dans son contexte plus large. Parce que la parole était dite d'abord à qui? Le peuple qui était en captivité. Le peuple qui venait d'une captivité babylonienne. Ils avaient reçu et ils étaient sous le jugement de Dieu parce que leur péché, à cause de leur péché. Mais maintenant, ils sont revenus. Et qu'est-ce que le message d'Isaïe pour eux? Consolez, consolez. Sois consolé parce que le Messie va venir. Il va être parmi vous. À ceux qui viennent ou qui rentrent de la captivité babylonienne, il y a un espoir. Dieu sera parmi vous. Et qu'est-ce que cela présuppose? Qu'est-ce que cela présuppose? Pour eux, à l'époque d'Isaïe, mais aussi pour les gens de l'époque de Jean, Jean-Baptiste. Que faut-il pour recevoir le Messie, pour recevoir l'Éternel, pour avoir un nouveau départ, pour avoir une nouvelle vie, d'une captivité à une liberté qu'on ne peut pas imaginer? Alors, il faut dire aussi dans ce contexte que cette référence que Jean-Baptiste fait pour dire que je suis ce héros, avec un message clair est aussi un message à la délégation. Ça veut dire que vous et le Sanhédrin qui est en arrière de vous, il faut, pour recevoir le Messie, l'Éternel, il faut se repentir et il faut la foi pour le recevoir. C'était également une invitation pour eux pour dire que je suis l'héros, je suis et je prépare le chemin pour le Seigneur qui vient. En plus tard, il va dire qu'il est déjà parmi vous. Alors, préparez-vous. Il faut se repentir. Alors, il est l'héros et qu'est-ce qu'il fait? Implicitement ou explicitement dans ce texte, dans ce témoignage, en utilisant ce texte de l'Ancien Testament, il console et il veut consoler le peuple. Exactement comme est dans l'esprit d'Isaïe. Ceux et celles qui sont en captivité, hein, là c'était littéralement à cause de leur péché, mais pour Jean-Baptiste et pour vous et pour moi encore aussi aujourd'hui, ceux et celles qui se trouvent en captivité du péché, de la mort, du Satan. Et il veut les consoler. Il dit, voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ, le Christ, loin du Seigneur, le Messie est venu pour vous délivrer de cette captivité. Pour que tu puisses rentrer dans une nouvelle vie avec lui. Hein? C'est comme une bonne nouvelle, c'est comme un nouvel exode, un nouveau départ. Un nouveau départ est possible. Et là, c'est le message de Jean, implicitement ou explicitement. Ça, ce qu'il a proclamé dès le début de son ministère ici sur la terre. Qu'est-ce qu'il a proclamé? Qu'est-ce qu'il a dit à maintes reprises et qu'il le fait encore avec son baptême? Il dit, c'est absolument nécessaire, frères et sœurs, c'est absolument nécessaire qu'il y aura une repentance, une vraie repentance de vos péchés. Les pharisiens qui étaient autour de lui étaient très, très fiers d'être des enfants d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Vous vous rappelez peut-être l'histoire. Je vais le rencontrer encore. Un jour, les pharisiens étaient avec et autour de lui. Et les pharisiens étaient offensés. Offensés pourquoi? Parce que Jean-Baptiste baptisait. Et pourquoi il était offensé à cause du baptême de Jean-Baptiste? Parce que c'était comme Jean-Baptiste disait que il faut se purifier, encore une fois. Il faut se repentir pour devenir les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants du royaume de Dieu. C'est comme il disait que ta religion est rien. Vous prétendez que vous êtes les fils d'Abraham, les filles d'Abraham, s'il y avait des femmes aussi. Mais ça ne dit absolument rien, parce que Dieu peut faire des enfants d'Abraham de ses roches. Hein? Il peut utiliser les roches pour construire, pour créer des enfants de Dieu. Donc, il faut se repentir, il faut repartir, il faut revenir pour venir à Dieu. Et donc, ils étaient offensés, ils étaient automatiquement le peuple de Dieu. Mais non, non. Jean-Baptiste a dit, non, il faut se repentir pour faire partie et appartenir au Dieu comme des enfants de Dieu. Alors, il fait encore la même chose. Il dit, il faut se repentir. Et donc, il témoigne même à la délégation devant le tribunal. Il dit, frère, il n'est pas trop tard. Repentez-vous et croyez. Car le Seigneur, Messie, le Messie, arrive. Voilà sa question, la question et sa réponse positive. Je suis les héros et je suis les héros du Messie qui est venu. Oui, Donc, on peut dire, Jean nous parle de nouvel exode. C'est ce que Jean annonce en tant que celui qui est la voix qui crie, prépare le chemin pour le Seigneur. Il faut noter deux choses encore. Parce que, pourquoi il a insisté sur ce verset pour dire, je suis l'héros. Je suis l'accomplissement de ce texte d'Ésaïe 40. C'est aussi pour faire l'emphase sur le fait qu'il n'était pas un révolutionnaire. Il n'était pas un zélote qui voulait établir un royaume davidique par la force. Pour donc renverser le gouvernement actuel. Il n'était pas un révolutionnaire pour établir une église ici, d'abord sur la terre, pour être un homme avec un grand statut en Israël. Non, il est venu pour proclamer un royaume qui est surtout et d'abord spirituel. Ce n'est pas un royaume terrestre, mais il était là pour inaugurer, pour être le héros, pour l'inauguration d'un royaume spirituel. Et tu rentres, tu peux entrer dans ce royaume seulement par la repentance et par la foi en Jésus-Christ. Donc, il a enlevé tous les soupçons par rapport à une révolution quelconque. Le royaume de Dieu, le royaume de ce Messie, frères et sœurs, est spirituel, d'abord et surtout. Il ne faut jamais oublier. On se trouve dans un temps très troublant, avec tout ce qui se passe aux États-Unis. C'était une révolte. Hein? Encore une réaction par les démocrates. Pour empêcher que peut-être Trump va revenir pour se déclarer président des États-Unis. C'est terrestre. C'est important. On se trouve dedans. Mais la chose la plus importante, d'être inauguré pour et dans le royaume spirituel de Dieu. Alors, Jean annonce un message. Contraire à tout cela. Un message pour inaugurer un royaume spirituel et éternel. D'être délivré de la chair, de ce monde. Oh, d'être hors du domaine du serpent, de la mort et des ténèbres. C'est ce qui signifie l'Exode. En effet. Un exode, comment? Par la voie de la vraie Pâque, par la mort et la résurrection, par la croix pour recevoir une couronne qui dure et qui durera éternellement. Le même contexte, tu vas lire un peu plus tard, plus bas, dans le même texte, Ésaïe 40. Tout est vain, sauf une chose. La parole de Dieu qui demeure. Alors, retournons au texte. Parce que, et ça va nous amener au dernier point, la délégation ne lâche pas prise. Ils continuent. Ils ne sont pas encore satisfaits avec cette réponse de Jean-Baptiste. Ils disent, ou la Bible dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie et ni le prophète. Je dois dire maintenant, oui, c'était nécessaire pour eux de savoir c'était quoi son identité. Est-ce qu'il était le Christ? est-ce qu'il était Élie? Est-ce qu'il était le prophète qui c'est à peu près la même chose que le Messie, en effet. Mais la chose la plus importante pour les pharisiens, en tout cas, peut-être pas pour les sadduciens, mais pour les pharisiens, était de savoir pourquoi il baptisait. Par quelle autorité et pour quelle raison il baptisait. Je viens de vous dire que les pharisiens étaient d'abord et surtout fâchés contre lui parce qu'il baptisait. Parce qu'il disait avec ce baptême que vous pouvez prétendre d'être les fils d'Abraham, mais il faut se repentir. Il faut recevoir encore une purification de ton cœur. Il faut se repentir. Il faut une vraie foi dans le Messie. Alors, le but principal est d'interroger Jean-Baptiste par rapport à son baptême. Ça, c'est le but final de leur questionnement. Alors, ils disent, pourquoi baptises-tu? OK? Permettez-moi de paraphraser leur question. Et ça vient d'un livre sur l'Évangile de Jean, écrit par William Hendrickson. C'est une traduction paraphrasée. C'est un très bon livre, par exemple. Alors, je vais paraphraser leur question. Mais Jean, ce que tu décris ici, c'est ce que le Messie ne peut que faire. Donc, à la fin, tu prétends être quelqu'un qui peut faire des choses, qui ne peut pas faire des choses, en effet. Ça veut dire que ce n'est pas vrai que tu peux purifier les cœurs à travers le message et à travers le baptême. C'est seulement le Messie qui peut le faire. Donc, pourquoi baptises-tu, d'ailleurs? Deux, tu ne peux pas purifier, comme je viens de dire. Ou tu ne peux pas faire sortir quelqu'un du péché, de la mort et de Satan, ou de la captivité babylonienne, ou bien sûr, aujourd'hui, du péché, de la mort et du diable. Et les faire entrer dans une vie libre et nouvelle. Encore une fois, seul le Messie peut faire cela. Encore une fois, vous voyez que leur questionnement n'était pas trop loin de la vérité. C'est vrai que seulement le Messie pourrait le faire. Et c'est vrai, et je ne vais pas lire les passages, mais ça se trouve en Ézéchiel 36, 25 et 28. C'est une promesse pour le futur, quand Jésus ou l'Esprit va venir pour que les gens se repentent et qui auront la foi en lui. Hein? Donc, ils avaient raison. Alors, pourquoi baptises-tu? Et encore ici, le témoignage de Jean-Baptiste. Encore, nous nous trouvons devant le tribunal. Et qu'est-ce que la réponse ou le témoignage de Jean-Baptiste? Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. » Alors, il répond à leur question. « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme réponse à leur question? Et encore une fois, reste avec moi parce qu'il dit, vous avez raison, en partie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête de baptiser, mais je vais mettre les choses un peu plus claires. Oui, je baptise, mais moi, je baptise d'eau. Et qu'est-ce qu'il a signalé avec cette réponse? Que, bien sûr, il y a une grande différence entre ce qu'il fait et ce qu'il fait et ce que le Messie va faire. En effet, qu'est-ce qu'il est en train de les dire ou expliquer? Oui, je peux administrer, donc le baptême, je peux administrer le signe, ça veut dire l'eau, je baptise d'eau. Mais il appartient à Jésus d'appliquer, de donner, d'accorder la signification de ce baptême. Donc, il peut administrer le signe, mais c'est seulement le Messie qui peut accorder la chose signifiée par le baptême. Et qu'est-ce que ça veut dire? La puissance purificatrice du Saint-Esprit. Vous comprenez la question? Vous comprenez maintenant aussi peut-être la réponse. Il a dit oui, vous avez raison. Je baptise avec l'eau, j'administre le signe, mais celui qui va venir après moi va vous donner la signification de ce que je vous proclame par le baptême et par le message. Ça veut dire, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, ça veut dire la puissance purificatrice du Saint-Esprit pour que tu puisses, tu peux te convertir. Tu peux reconnaître tes péchés. Tu peux reconnaître la justice de Dieu. Tu peux reconnaître le jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Messie. Et il ajoute, et ce Messie est effectivement arrivé. Il se tient au milieu de vous déjà. Vous voyez? Il appartient à votre génération. Donc, c'est une grande consolation. Et il est sur le point de commencer son ministère public. À ce point-là, Christ était déjà baptisé pour commencer son ministère. Il avait 30 ans. Et donc, son baptême était pour commencer son ministère public ici sur la terre. Comme les prêtres avaient 30 ans pour commencer leur ministère dans le temps. Donc oui, le Messie était déjà au milieu d'eux. Il était déjà là, mais ils n'ont pas reconnu. Donc, en effet, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, vous êtes très impressionnés et dans leur empressement à répondre au faux Messie, ils ignorent le vrai Messie, qu'il est déjà parmi vous. Qu'il est déjà parmi eux. La raison d'être de Jean-Baptiste, la raison du ministère de Jean-Baptiste. Et il ajoute dans sa réponse, et lui, il est si glorieux que je ne suis, ça veut dire Jean-Baptiste, même pas digne de défaire la courroie de ses chaussures. Pour lui laver les pieds. Waouh! Est-ce que vous comprenez sa réponse? Est-ce qu'il proclame encore son message aussi à eux? Et ça m'amène au dernier point. Dernier point. Le témoignage de la consolation du baptême de Jésus. Qu'est-ce qu'il termine? Qu'est-ce que le passage termine avec? Le passage termine avec le fait que qui arrive? Jésus, lui-même. Il arrive. Il dit, quand il a rendu témoignage, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, il va faire référence au baptême de Jésus. Il va faire référence à ce qu'il a témoigné. Encore une fois, vous rappelez qu'on est devant le tribunal. Et c'est son témoignage, le témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, j'ai vu l'agneau de Dieu venir. J'ai vu l'agneau de Dieu venir et qui se baissait, qui descendait dans l'eau du baptême. comme l'agneau de Dieu. Oh, quelle consolation! Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste le début de son ministère ici sur la terre, mais son baptême est un baptême qui est substitutif. Ça veut dire qu'il est descendu dans l'eau du baptême. Pourquoi? Parce que son Père a mis nos péchés sur ses épaules. Et lui, il a vécu le jugement sur vos péchés et sur nos péchés. Voici l'agneau de Dieu. Mais pas seulement cela. Parce qu'il est aussi ressuscité. Il est sorti de l'eau, du baptême. Et qu'est-ce que son Père a dit? Voici mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors le Père a témoigné que seulement en lui, tu peux recevoir mes affections, parce que j'accepte son sacrifice, j'accepte son œuvre, j'accepte ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Et à cause de lui, frères et sœurs, vous pouvez aussi être reconnus comme enfants de Dieu. Justifié. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Waouh, quelle consolation! Mais pas seulement cela. Parce qu'il témoigne encore, Jean-Baptiste témoigne. Il dit, j'ai vu qu'il est plein de l'Esprit Saint. Il a vu l'Esprit Saint descendre sur sa tête. Ça veut dire quoi? C'est un sauveur, un rédempteur qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification, mais qui a aussi reçu le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous donner le Saint-Esprit, pour qu'on puisse aussi croire en lui, pour qu'on puisse aussi être consolé avec son arrivée, par son arrivée, par son baptême. Et ça, c'est le mot, c'est le point que je veux souligner. Et je reviens ici sur le passage que j'ai lu au début. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Référence de Jean. « Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui, pourquoi ?» Oh, s'il y a des gens encore une fois, s'il y a des gens encore aujourd'hui qui voient le monde autour d'eux, qui voient le monde à l'intérieur d'eux, qui sont encore en captivité de ce monde. Il y a une sortie, c'est Jésus-Christ. Consolez-vous, consolez mon peuple, car sa servitude est finie, car son iniquité est expiée. Comment? Et par le baptême de Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, soyez consolés donc, dans ce temps troublant. Soyez consolés avec Jean-Baptiste, avec son témoignage ce matin, pour qu'on puisse se trouver en lui. Oui, ressuscité et plein de Saint-Esprit pour vivre avec lui éternellement. Aussi dans ce temps troublant, surtout dans ce temps troublant. Que Dieu soit votre consolation encore aujourd'hui à cause de lui. Amen.